لما بدا ياتنا لما بدا ياتنا آمان 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 آمان. Cette mélodie, elle revenait toujours dans le rêve de Zacario. Zacario, il rêvait d'un trésor. Mais quand je vous dis qu'il rêvait d'un trésor, il en rêvait vraiment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que son père le cherchait pour les travaux de la bergerie, eh ben lui, il échappait à sa vigilance et il montait derrière la bâtisse sur une petite colline verte. Et tout en haut de la colline, il y avait un olivier, tout tordu, biscornu, dont le tronc se divisait en deux. Un endroit parfait pour faire la sieste. Et là, il se mettait dessous, il se laissait bercer par la brise légère. Il regardait les bateaux aller et venir sur la mer Méditerranée. Il fermait les yeux et il s'endormait. C'était toujours le même rêve. Ça se passait là-bas, dans une cité inconnue. Et au cœur de cette cité, eh bien, il y avait des gens. Ça se bousculait, ça vendait, ça criait. Il y avait toujours cette âne au milieu de la rue qui bouchait la rue avec un enfant qui lui tenait la bride. Et juste à côté, il y avait toujours ce marchand, cet épicier avec une dent en or entouré de ses sacs d'épices parfaitement formés. Et puis s'il marchait là sur la droite, il y avait une porte joliment peinte en bleu avec un serpent lové dans une poignée en fer forgé. Et juste à côté, il y avait une ruelle. Et au bout de la ruelle, il y avait une petite tente. Et son trésor, il était là. Il était dans la tente. Il le savait, il en était sûr. Et à chaque fois qu'il rêvait, de nouveaux détails arrivaient. Parfois, c'était un chat sur une botte de paille, d'autres fois, des vieillards encapuchonnés. La vérité, c'est que ce rêve, il était si réel, si palpable, il avait l'impression qu'il pouvait le toucher, qu'un jour, il se dit que ce rêve ne pouvait pas ne pas exister. Alors un matin, dans les lueurs de l'aube, il a pris son grand chapeau noir, il a enfilé sa chemise blanche et il s'est saisi de son bâton de rêve, là où il avait gravé toutes les images de son rêve. La tente rouge, le serpent, l'âne. Il s'est avancé près de la porte, il a regardé derrière lui, il a ouvert la porte et il est parti. Il a marché. Il a marché toute la matinée. Et quand le soleil fut haut dans le ciel, il a continué à marcher. Et puis quand il rencontrait des villageois, il leur montrait son bâton de rêve, il leur disait, il leur décrivait son rêve et il leur demandait, est-ce que vous la connaissez, cette cité inconnue ? On haussait les épaules. Oh, tu peux aller voir là-bas, la prochaine cité. Mais bon. Et c'est ainsi qu'il quitta son pays d'Oc. Il est allé de cité en cité. Il a traversé des plaines. Il a contourné des lacs où se reflétaient les nuages. Il a gravi des montagnes où il s'est fait surprendre par la neige. Il a avancé, avancé. Il a suivi des courants d'eau, des rivières, des ruisseaux. Il a passé des frontières. Et un jour, il est arrivé là-bas, à Antalya. Et là, un marin lui a dit, lui a juré mordicus que cette tente rouge-là, il l'avait vue. Oui, mais de l'autre côté de la mer Méditerranée, à Alexandrie. Alors Zacario s'est embarqué. Il a pris un navire marchand, il s'est calé dans la soute entre deux sacs de patates, il a traversé la mer Méditerranée et arrivé à Alexandrie, il a couru à l'endroit indiqué par le marin. Et là, il a vu une tente rouge. Ah oui, c'est sûr, elle était rouge. Et puis, effectivement, juste à côté, il y avait une porte joliment peinte en bleu, mais finalement, elle n'était pas si jolie que ça. Et puis, cette tente rouge, elle ne ressemblait pas vraiment à celle de son rêve. C'était son rêve, mais non, en fait, c'était pas son rêve. Alors, Zacario a marché, il a erré, s'est assis sur un banc en pierre, et pour la première fois, il s'est demandé ce qu'il faisait là. Il a regardé la mer Méditerranée, et puis il a erré. Il a vu un marchand, il a échangé son grand chapeau noir contre une djellaba, et il a continué à marcher sous ses pieds. Le gravier est devenu sable. Devant lui, des dunes. L'immensité désertique. C'était tout orange. Il faisait chaud. On était aux portes du désert. Alors, il a marché tout droit, il a avancé. Il avait chaud. Il avait soif. Et son rêve, là-bas, entre deux dunes, se dessinait. Les contours flous. La mabadayatsana. La mabadayatsana. Aman, 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 aman. Aman, 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 aman. Aman, 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 aman. Il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, au-dessus de sa tête, les étoiles. À sa droite, des chameaux qui s'abreuvaient à l'eau de l'oued. Et à gauche, une présence, un regard. Qui es-tu, toi ? Moi, je suis l'homme qui t'a sauvé la vie. Je t'ai trouvé inanimé, là. Et toi, qui es-tu, étranger ? Jeune fou. Eh bien, moi, je suis chercheur. Je cherche un trésor. Et Zacario lui a raconté toute son histoire. Et à la fin de son histoire, le Touareg l'a regardé et lui a dit « C'est étonnant parce que cette histoire m'en rappelle une autre, me rappelle un souvenir de jeunesse. Elle me rappelle l'endroit dans lequel j'ai grandi avec mon frère. Il y avait une tente rouge et dans cette tente, il y avait une dame qui vendait des mots. On lui donnait quelques pièces et puis elle nous racontait des histoires. Mais c'est où cet endroit ? C'est où ? Ben c'est cet endroit s'appelle Almeria, c'est là où j'ai grandi, le royaume d'Al-Andalus. Mais comment fait-on pour y aller ? Eh bien, si tu veux, demain, je traverse le désert, je me rends à Tunis pour aller récupérer des étoffes de soie que mon frère me ramène du royaume d'Al-Andalus. Et de là, tu pourras prendre un bateau qui te mènera à Almeria. » Et ainsi fut fait. Les deux hommes ont traversé le désert et arrivés devant la casbah de Tunis, ils sont tombés dans les bras, se sont donné la collade. L'homme est parti de son côté et Zacario, lui, il s'est mis à courir. Il a passé la mosquée, il a enjambé des jeunes enfants là, qui jouaient aux osselets, il a bousculé des marchands de fruits et légumes, il a couru, il est arrivé au port, et là il a crié « Qui m'emmènera aux portes de mon trésor ?» Et le voilà maintenant, à la proue d'un navire marchand. Il regarde là-bas, il guette les collines, il guette la silhouette d'un phare, tandis que le bateau fend les flots bleus de la mer Méditerranée. Ça y est. Almeria. Le bateau entre dans le port et à peine a-t-on déchargé les caisses que Zacario pose le pied sur le ponton de bois et il se remet à courir. Il court et il arrive enfin à la cité inconnue. Et là, c'est comme si l'image de son rêve se superposait à celle de la réalité. Alors il se met à courir et il arrive au cœur de la cité, au cœur de la Médina, ce cœur qui bat, et là ça se bouscule, ça crie, et il y a toutes les images de son rêve. Il y a l'âne qui bouche la rue avec l'enfant qui lui tient la bride, et juste à côté, le marchand avec la dent en or, entouré de ses sacs d'épices, aux cônes parfaitement formés, rouge, jaune, orange. Alors s'il y a l'âne, s'il y a l'épicier, alors s'il va à droite, alors il marche vers la droite. Et là, oui, il y a la porte joliment peinte en bleu avec le serpent lové dans la poignée en fer forgé. Alors s'il y a la porte, juste à droite, il y a la ruelle. Il la voit là-bas tout au bout, la tente. Son cœur qui bat. Il marche doucement. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ce trésor ? Peut-être qu'ils pourront peut-être refaire la bergerie. C'est vrai qu'elle a bien besoin avec le toit qui s'effondre. Et puis lui pourra peut-être s'acheter un bateau pour continuer à voyager, ou un âne. Il marche, sa main touche maintenant le tissu rouge, il écarte un pan de rideau, et là il voit une très vieille dame qui est là. C'est la marchande de mots. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit ? Mais vous êtes assise sur mon trésor ! Mais quel trésor ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et Zacario lui raconte une nouvelle fois son histoire. Et à la fin de l'histoire, la dame dit Mais c'est une belle histoire, ça. Alors, dis-moi, où est-ce qu'il est, ton trésor ? Et Zaccario, qui a eu d'autres détails du rêve, entre-temps, il sait. Et il est là, là, sous le tapis. Alors, il soulève le tapis, et puis là, alors où est-ce qu'on on creuse où ? Non, non, c'est le cinquième pavé en partant de la gauche, celui-là. Alors, à quatre mains, il décèle le pavé, il le retire, il se penche, il regarde dans le trou. Ben là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a de la terre, noire, meuble. Non, il n'y a rien. Alors Zaccario s'effondre sur le petit tabouret en bois. Il regarde la flamme de la bougie danser. Il revoit le chemin parcouru. Et la dame aussi, elle regarde la flamme de la bougie. Un instant d'éternité. Et puis soudain, elle dit « C'est marrant. J'y avais pas pensé tout de suite. Mais ce rêve-là que tu m'as raconté, ça me rappelle un rêve que moi aussi j'ai fait, il y a longtemps. Un peu similaire au tien. Ça se passait pas dans une ville, non. Ça se passait loin là-bas, de l'autre côté de la mer Méditerranée, à la campagne. Il y avait une bergerie. Derrière la bergerie, il y avait une petite colline verte. Tout en haut de la colline verte, il y avait un olivier tout tordu, biscornu, dont le tronc se divisait en deux. Un endroit parfait pour faire la sieste. De là, on pouvait regarder les bateaux aller et venir sur la mer Méditerranée. Eh bien, sais-tu que dans mon rêve, quand on creusait au pied de l'olivier, eh bien, on trouvait un trésor. C'est le bruit qu'a fait la flamme de la bougie en s'éteignant, et la tente a tremblé un peu. Elle ne l'a pas vu partir. Elle a juste eu le temps de sortir de sa tente et de le voir disparaître au coin de la ruelle. Il filait. Elle est revenue dans sa tente rouge. Elle a vu qu'il avait oublié son bâton de rêve, là. Alors elle s'en est saisie, elle a ouvert un grand coffre, puis elle a déposé avec les autres bâtons de rêve. Et puis elle a remis le tapis en place. Elle a remis aussi le pavé qu'ils avaient décelé. Elle a rallumé la bougie. Elle a mis un peu d'encens, elle a fermé les yeux, elle s'est remise à chanter. La mabadayatsana, la mabadayatsana, aman, 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 aman.
Merci, Joël Foulet, pour ce premier conte. J'espère que vous y étiez tous et toutes très bien installés pour écouter ce premier conte. Il va y en avoir un deuxième, alors restez confortablement assis ou debout, comment vous êtes pendant cette petite pause du midi, parce qu'on est là jusqu'à 13h30, et avec Joël encore un petit peu. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré ce personnage de Zaccario ?
Déjà, les contes, en fait, cette version du conte, par exemple, c'est ma version, mais c'est une version populaire. Donc, c'est un conte populaire, donc il y a plein de versions de ce conte qui existent, qui ne se passent pas forcément au Maghreb, où il y a des versions multiples.
Là, vous avez choisi cette destination, Almeria, parce que vous les avez déjà visitées vous-même ?
Bah après, oui, c'est-à-dire quand on fait sa version du conte, c'est une rencontre, je dirais, entre plusieurs choses. C'est l'histoire qui vous parle, mais aussi, je dirais, comment ça fait écho en vous, quoi. Et puis après, on y met un peu de soi. Donc moi, effectivement, j'ai toujours tendance à décentrer un peu mes histoires ailleurs qu'en France, quoi. Donc on marche beaucoup dans mes histoires, dans le conte d'une manière générale, mais chez moi aussi. Et c'est vrai que j'ai une attirance pour le Maghreb, pour l'Orient.
C'est les pays qui vous inspirent ?
Ça m'inspire, ouais. C'est vrai que je ne sais pas d'où ça me vient. Ça peut être un peu d'ici, de Marseille, mais peut-être aussi... moi, je suis parti il y a très très longtemps, il y a 20 ans, dans le désert. Et c'est vrai que ça a eu un impact un peu sur moi. Mais d'une manière générale, le voyage, quoi, ça a formé un peu... Ah, puis je sais pas, quand on... Moi, les histoires, j'ai toujours aimé les histoires qui m'emmènent ailleurs. Donc, c'est vrai que bah, le désert, c'est un ailleurs. Et c'est l'occasion de...
Qui permet de rêver aussi.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Puis dans votre histoire, ça parle de rêve, mais aussi des fois de la désillusion qu'apporte la réalité. Vous, vous aimez bien rêver aussi. Est-ce que des rêves vous apportent des histoires?
Ah, c'est une bonne question. En fait, moi, ce que je trouve chouette dans le conte, c'est que justement, ça permet de rêver éveillé. Et que c'est surtout quand on travaille, mais bon, évidemment, quand on écoute aussi, mais même quand on travaille les histoires, une des façons de travailler, c'est de se mettre dans une espèce de rêve semi-éveillé, donc de retrouver un peu l'état de rêve, mais en conscience, un peu comme l'hypnose, quoi. Hein, je crois, j'ai jamais fait d'hypnose, mais je pense que c'est un peu lié. Et du coup, je suis attentif à me remettre dans cet état de rêve. Après, je sais pas si les rêves... Les rêves éveillés, ça m'apporte des histoires, mais les rêves en soi... C'est... Je ne me suis jamais réveillé en me disant « Ah oui, là, c'est une idée
c'est
géniale,
une histoire à tirer. Et vous
pas encore.
Il y a des situations qui vous mettent dans cet état de rêve éveillé, des lieux aussi. Est-ce que Marseille... Pourquoi Marseille, d'ailleurs? Pourquoi vous avez choisi de vous amarrer à Marseille, finalement?
Ah, bah, au départ, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs raisons. Moi, j'ai vécu dans différents endroits... Et notamment, j'ai passé un peu de temps en Turquie. Et quand j'étais revenu de Turquie, donc j'étais à Izmir, près de la mer Méditerranée. Avant, j'habitais à Paris. Et quand je suis revenu, je fais « Non, mais en fait, cette lumière-là, moi, je veux ça tout le temps. Je veux pas ça en vacances ou quoi. » Donc, ça a été un des paramètres qui m'a fait venir à Marseille. Et quand je suis arrivé à Marseille... Il y avait aussi ce voyage qui était là en permanence. Et j'ai eu l'impression que, comme une fois j'avais vu une vidéo là, qu'un copain m'avait montré sur le vieux port, un vieux pêcheur qui était là, qui est un journaliste parisien, qui lui demandait « Alors, Marseille, c'est quoi ?» Et lui, il répondait « Ah, Marseille, c'est des histoires !» Et Marseille, oui, je pense que c'est ça, c'est des histoires. Du coup, c'est vrai que ça a peut-être un peu nourri aussi, inconsciemment, je dirais, mon imaginaire. Mais...
Et vous trouvez ici des oreilles multiples pour raconter vos histoires?
Oui, oui, bah je raconte à différents endroits. Il y a un lieu là bah, où je vais raconter le 8 septembre, qui s'appelle Si par hasard, qui est un salon de thé, par exemple, qui accueille beaucoup de conteurs, qui est ouais, vers le cours Julien. Sinon, on raconte dans des restaurants, dans des médiathèques, bien sûr. Et après, il faut aussi créer... Il y a un joli mouvement à Marseille sur le conte en ce moment, avec notamment pas mal de soirées aussi en appartement. Donc on fabrique aussi les contextes pour raconter. Parce que c'est vrai qu'il faut fabriquer le contexte, quoi.
Et vous avez une certaine façon de mettre en forme aussi, de mettre en voix vos contes. Vous passez d'abord par l'écrit. Est-ce que vous écrivez vos contes?
Jamais.
Jamais.
Jamais, c'est presque... Je ne vais pas dire que c'est interdit, mais non, c'est rien qui interdit chacun. Non, en fait, je dis ça, bon. Parfois, je mets des choses par écrit, les événements ou des choses comme ça, des balises un peu au début. Mais par contre, je n'écris jamais parce que le principe, c'est l'oralité, quoi. Hein, donc, un conte, vraiment, le principe du conte, c'est je te raconte une histoire. Toi, bah, tu vas la re-raconter avec tes mots, avec ton contexte, avec qui t'es. Et donc ça faut toujours l'avoir en tête. Maintenant, les contes sont écrits dans des livres et tout ça, mais avant, ça n'existait pas.
C'était un travail de mémoire aussi.
Oui, oui, oui. Et puis, oui, c'est ça, c'est que les gens qui écrivent les contes, comme les frères Grimm, par exemple, c'était des collecteurs, en fait. Et c'est pas eux qui ont écrit les contes, ils allaient chez des gens, des nourrices françaises, d'ailleurs, souvent, qui racontaient les histoires, et eux, ils étaient dans un coin de la pièce et puis ils notaient. Donc même si maintenant c'est écrit, alors il y a quelques conteurs, comme Andersen par exemple, qui a écrit vraiment ses contes, même s'ils sont inspirés d'autres. Mais c'est vrai que la matière écrite, c'est pas la matière du conteur. C'est bien pour connaître des contes, parce que maintenant on se les raconte un peu moins comme ça, de manière orale je veux dire. Mais au départ, voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, c'est vrai que ouais, l'écrit... Et puis, il y a autre chose aussi, c'est qu'à l'oral, on peut faire passer une idée très vite. Alors qu'à l'écrit, bon, on va l'écrire, on va mettre trois phrases, alors qu'en une phrase, c'est réglé. Par exemple, si on dit « Elle est belle », bah, ça, c'est réglé en une phrase, quoi. « Elle est belle ». Alors qu'on pourrait écrire des tartines en décrivant plein de choses, ce que je faisais, moi, au début, d'ailleurs, quand j'ai commencé. il n'y a pas si longtemps, mais quand j'ai commencé, je viens plutôt de l'écrit, moi. Donc, j'avais tendance à être très littéraire.
À rajouter des détails.
Détails. Ouais.
Pour remplacer presque les images mentales que peuvent se faire.
Exactement, c'est tout l'art du récit, de ne pas trop en dire, pas trop détailler, mais quand même, c'est important aussi à certains moments, mais de laisser la place, en fait, pour que. Bah, l'auditeur puisse se faire, lui, ses propres images, parce que c'est un ping-pong, hein, ce que je racontais tout à l'heure en antenne, mais c'est... Moi, je donne les images, et puis les gens s'en emparent. Et sans les gens, il n'y a pas d'histoire, vraiment, parce que c'est... pour le coup, c'est vraiment interactif, quoi. C'est très moderne, en fait, le conte. Hein.
Et alors, vous mettez en forme aussi avec l'aide d'un instrument, la Shruti Box.
Oui, alors là, sur ce conte-là, il n'était pas là. Mais c'est un instrument indien, c'est comme un peu l'accordéon indien qui permet de faire un bourdon et qui m'accompagne sur certains contes.
On peut l'écouter, on peut écouter rapidement un extrait audio du voyage de Zacario avec ce bourdon et puis après on continue la discussion.
Il y avait un gars au village, un certain Zacario, le fils d'un pastré, un berger. Devenir berger, lui, ça ne l'intéressait pas beaucoup. Non, lui, ce qu'il voulait, c'était lézarder au soleil, faire des siestes.
Voilà, c'est ce que vous nous avez délivré juste avant, mais sans la Shruti Box.
Ouais, la Shruti, elle vient un peu plus loin dans l'extrait. Là, c'était juste le oud de Patrick Sainton, qui est... voilà.
Et alors, la Shruti Box...
Dans l'oud naissante.
C'est ça.
Là, c'est un mix, en fait, de doudouk, donc un instrument arménien, et aussi de Shruti Box, qu'on entend un peu plus dans le fond. Et voilà, on raconte à deux, quand je raconte avec Patrick Sainton, donc le musicien qui m'accompagne, qui joue du oud, je disais, du doudouk, différents tambours, différentes flûtes. Et puis moi, je joue un peu de Shruti Box avec.
Et la musique transforme votre façon de conter ?
Oui, un peu. Alors, transformer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, il y a des ajustements, quoi. C'est un dialogue. Patrick a tendance à me dire que moi, je calme ma voix par rapport à la façon dont il joue. Et inversement, enfin, voilà, ça se répond, ouais.
Et vous disiez que le conte est moderne, que c'est moderne. Est-ce qu'on peut toujours dire que dans un conte, il faut qu'il y ait une morale, forcément ? Est-ce que cette morale, elle a changé à travers les temps ?
Alors moi, je dirais justement qu'il ne faut pas qu'il y ait de morale. Au contraire, le conte, c'est ouvert. Et c'est aussi d'ailleurs ça qui... Parce que c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a beaucoup l'habitude d'entendre. Donc quand on fait cercle et que je raconte une histoire comme ça, je vois bien que les gens ils sont entre le film et le livre. Et je sens bien que l'écoute, elle est différente du film ou de lire un livre. Et c'est vrai que des fois, on me demande un peu « mais qu'est-ce que tu as voulu dire ?» ou « qu'est-ce que ça raconte ?» Et ben, moi, j'ai juste raconté l'histoire.
À vous de vous poser la question.
Voilà, c'est-à-dire qu'on donne des... C'est ouvert, en général. Et c'est bien que ça soit ouvert. Moi, j'aime pas trop, justement, le côté moral, de devoir surligner quelque chose. Au contraire, on part avec ça. Des fois, ça nous rattrape un peu plus loin, le conte, l'histoire. On se dit, ah tiens, cette histoire, tiens. Voilà, mais je préfère ça que de marteler une grosse morale.
Et vous êtes venu avec un deuxième conte ? Peut-être qu'on peut se quitter avec cette autre histoire autour des Inuits.
Voilà, alors c'est un autre voyage. On va se refroidir un peu.
Après le désert.
Il était une fois un vieux chasseur inuit du nom d'Amaruk. Et Amaruk, dès que la nuit polaire se terminait, il avait pris l'habitude de sortir de sa cabane d'hiver, de marcher le long du sentier où étaient érigées d'immenses eaux de baleines, et d'aller s'asseoir sur son petit tas de pierres plates. Et là, il attendait. Il attendait que le soleil se lève. Et ça y est, le soleil se lève, comme poussé par des puissances invisibles. Les rayons attrapent les arêtes glacées, bleutées des icebergs qui dérivent. La banquise se teinte de reflets mauves, roses. Son visage se baigne de lumière, il ferme les yeux. Et puis il les rouvre. Il les rouvre parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois qu'il voit le soleil se lever sur son village d'Alouk. Parce qu'il a dit oui. Il a dit oui à son fils Toulimac. Bah, il n'allait pas le laisser partir tout seul quand même. Non. C'est vrai que son fils et lui, ils n'avaient rien à voir. Toulimac, depuis qu'il était en âge de marcher, il avait envie d'ailleurs. Je me souviens qu'en sortant de l'igloo, là, il tenait à peine sur ses jambes et qu'il l'avait vu marcher dans la neige, tomber, se relever, épousseter son visage de la neige et il partait tout droit. Qui sait jusqu'où il aurait été si on ne l'avait pas retenu. Il aurait pu aller jusqu'à la banquise et puis dériver sur une de ces plaques de glace, aller jusqu'au monde des roulinates, le monde des blancs. Sous-soirite, sous-soirite. Attention, attention en kayak. Ne va pas entre les icebergs qui peuvent se retourner à tout moment. Combien de fois il lui avait répété ça? Et puis quand lui, il avait arrêté de chasser, c'est son fils, c'est Toulimac qui avait repris le flambeau. Et alors là, il partait tout seul. Pendant 2-3 jours, qui sait où il allait? On ne savait pas. Oh, c'était un bon chasseur. Mais qu'est-ce qu'il avait besoin de partir loin, toujours? Lui, à Malouk, il n'avait jamais quitté son village d'Alouk. Quel besoin? Non, il n'était jamais allé plus loin que le glacier de Nassaswart. Non. Il y avait tout ici. En hiver, des phoques, des morses, un caribou de temps en temps. L'été, des oiseaux qu'il attrapait au filet, des poissons qu'il pêchait dans les rivières qui se formaient, des baies, des plantes. Quel besoin de partir. Ati, ati! Ça y est, c'était le signal. Le vieil Amarouk s'est levé de son petit tas de pierres plates. Il a descendu la petite pente glacée. Toulimac avait tout préparé. L'oumiak était prêt. Dedans, il y avait des harpons, il y avait du matériel de pêche, des peaux de phoque. Le vieil homme s'est installé au milieu de l'embarcation. Toulimac a poussé sur la pagaie et l'embarcation a glissé sur les eaux noires où se reflétaient déjà les lueurs du soleil. Toulimac regardait son père et Amarouk regardait derrière son épaule et regardait les petites cabanes qui s'éloignaient et il chantait. Olé, olé, ah, olé, olé, ah, olé, olé, ah, oh yeah. Olé, olé, ah, olé, olé, ah, olé, olé, ah, oh yeah. Les jours ont passé au rythme des coups de pagaie, des parties de chasse et de pêche. En fin d'après-midi, on montait le camp. On tendait les pots de phoque, on lestait avec de lourdes pierres, on allait chercher de la mousse pour la lampe à huile et le soir, on mangeait en silence des bouts de phoque cru qu'on accompagnait avec de la graisse. Demain, nous irons un peu plus au nord. À chaque fois que Toulimac disait cela, le vieil Amarouk levait vers lui son regard triste, prenait son os de baleine et le taillait en silence. Parce que oui, Toulimac, lui, il voulait toujours aller plus loin. Il voulait toujours dépasser le glacier là-bas, le fjord. Il voulait dépasser là ces statues de pierre, là, les inatsouk, sous lesquelles parfois on trouve un peu de viande de caribou séchée. Toujours plus loin, oui, toujours explorer. Et quand ils ont rencontré des nomades là, Toulimac était l'homme le plus heureux du monde. De nouvelles façons d'apprendre, de nouveaux mots, de nouvelles façons de raconter le monde. Et le soir, il s'endormait le cœur léger. Amarouk, lui, il se levait tôt, toujours avant l'aube, comme à son habitude. Il sortait de la tente, il cherchait des pierres plates. Il ne les trouvait pas, il était mal assis. Il regardait, il essayait de trouver son soleil, mais il ne le voyait jamais. Il y avait toujours un pan de colline qui le masquait. Parfois c'était le blizzard qui se levait et qui qui soulevait des tourbillons de neige et qui drapait la plaine dans une enveloppe blanche. Puis d'ailleurs, même quand il le voyait vraiment, il n'était pas aussi beau que celui qui se levait sur son village d'Alouk. La glace a fondu. Des tapis de fleurs, rouges, jaunes, oranges, ont envahi les plaines. Les baleines à bosse se sont remises à chanter. Oye, oye, ah, oye, oye, ah, oye, oye, ah, oye, 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 ah, oye, oye, ah, oye, oye, ah, oye. Amalouk se levait de plus en plus tôt. Une fois Toulimak s'est réveillé, il n'était pas là. Il a entendu le chant derrière la tente, il s'est levé, il a été le voir, il lui a dit « Mais papa, tu vas prendre froid, rentre !» Pour toute réponse, l'homme s'avançait, reculait, il chantait. Une autre fois, Toulimak s'est réveillé, mais cette fois-ci, c'est le silence qui l'a réveillé. On n'entendait plus le chant des baleines à bosse. Le blizzard s'était tu. Et surtout, Amalouk ne chantait plus. Quoi ? Il chantait plus ? Il s'est levé, il est sorti de la tente, il a regardé, la nuit était claire. À droite, là-bas, les icebergs qui dérivaient toujours, un craquement, à gauche, un flanc de montagne. Devant lui, l'horizon, mais plus d'Amalouk. Assis des traces dans la neige. Il s'est mis à les suivre, puis il s'est mis à courir. Il s'est mis à courir à mesure que l'aube éclaircissait la nuit. Et puis soudain, là-bas, il a vu, au loin, la silhouette recroquevillée d'un homme qui avançait, tout doucement, à petits pas. « Amalouk, Amalouk, mais reviens, mais que fais-tu ?» Alors il a couru, couru, il a mis l'épaule sur son... il a mis la main sur l'épaule de son père. Mais son père l'a enlevé, avec une force qu'il ne lui connaissait pas. Toulimak s'est retrouvé les fesses dans la boue. Et il a regardé son père qui continuait son chemin et qui allait jusqu'en haut de la colline. Alors il s'est relevé tout doucement et il est allé rejoindre son père. Il a embrassé le paysage. Oh, c'était beau. Il y avait des reflets mauves, roses. Il n'avait jamais vu finalement le soleil se lever, lui. Il a regardé le visage de son père, il était baigné de lumière. Visage cuivré. C'était beau. C'était presque la première fois qu'il voyait son père. C'était son sentiment en tout cas. Alors il lui a tenu la main, il lui a dit « C'est fini, papa. Rentrons. » Et quelques heures plus tard, les deux hommes étaient sur l'Oumiak, dans l'embarcation. L'embarcation glissait, là, le long de la berge. Il rentrait, il remontait, il rentrait vers le sud. Quelques jours après, ils ont passé le glacier de Nassaswart. Et on a vu se dessiner sur le visage d'Amalouk un premier sourire. Et puis un deuxième sourire quand il a vu là-bas les eaux de baleines qu'il avait lui-même plantées il y a tant d'années. Et il a laissé éclater sa joie. Et ce cri de joie a alerté Kenadjouak qui était là, la cousine de Toulimak, qui était sur la berge en train de repriser un filet. Quand elle a vu les deux hommes, elle est partie alerter tout le village. Et c'est tout le village qui est descendu accueillir les deux hommes. Et quand ils ont mis le pied sur la berge, on les a enlacés, on les a câlinés, on s'est réchauffés. Et puis le soir, on a sorti les kilaouts, les tambours, et on a tapé sur les tambours, et on a dansé, on a chanté, on s'est raconté des histoires jusqu'au bout de la nuit. Poc, poc, poc. C'est une petite goutte là qui tombait dans la cabane. Ah, décidément, le printemps était là. Ça l'a réveillé, Toulimak. Il a regardé à sa droite. La couche d'Amalouk était vide. Son papa était déjà en poste. Il s'est levé, il s'est courbé, il est sorti de la cabane d'hiver. Et il a vu son père, assis là, sur son petit tas de pierres plates. Il attendait. Et bientôt, les rayons du soleil se sont échappés de l'horizon, se sont éclipsés et sont venus mourir sur le visage cuivré d'Amalouk. Toulimak est resté un instant, plusieurs minutes, à regarder son père. Et au bout d'un moment, l'ombre d'un doute est passée sur son visage. L'homme qu'il avait devant lui, la silhouette, ne bougeait plus du tout. Alors il a couru, il l'a contourné, et il s'est retrouvé face à son père. Il a vu les yeux fermés, comme d'habitude, le visage baigné de lumière, mais il a mis sa main devant sa bouche et aucun nuage de fumée froide ne sortait. Alors il a crié. Il a touché le bras de son père, il était raide. Alors il a crié de nouveau. Amarok n'était plus. Il était resté pétrifié en regardant une dernière fois le soleil se lever sur son village d'Alouk. On raconte que Toulimak n'a plus jamais quitté le village. Et que dès que la nuit polaire se terminait, il avait pris l'habitude de se lever avant l'aube, d'aller jusqu'au petit tas de pierres plates, s'asseoir et d'attendre le lever du soleil. Les rayons attrapaient alors les arêtes bleutées, glacées des icebergs qui dérivaient. La banquise se teintait de reflets mauves et roses. Et alors on pouvait entendre parfois dans le blizzard un chant qui faisait « Olé, olé, ah, olé, olé, ah, olé, olé, ah, olé, 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 ah, olé, olé, ah, olé, olé, ah, olé. »
Merci Joël Foulé pour ce deuxième conte sur notre antenne de Fréquence Mistral Marseille. Est-ce qu'il a un titre, ce conte-là ?
Il a un titre très long qui s'appelle, je crois, c'est pas facile de s'en souvenir, c'est Le chasseur dont le cœur se brisa quand il revit son village d'Alouk. Quelque chose comme ça.
Alors, avec Amarok et Toulimak, on a voyagé. On a un peu froid. D'autant plus qu'on a poussé la clim, alors on s'y croirait presque. Bah merci, on peut peut-être vous croiser du coup à Marseille, mais ailleurs aussi pour avoir vos comptes. Vous faites de bouche à oreille, comment ça se passe pour...
Ouais, j'ai une page Facebook qui s'appelle Joël Foulet Conteur. Donc là, on peut me retrouver là, je poste régulièrement les dates. Et je joue à Si par hasard, dont je parlais tout à l'heure, le 8 septembre, le jeudi 8, ouais. Et puis voilà, c'est tout pour le moment.
Merci pour votre passage ici.
Avec plaisir.
Et à bientôt.
À très bientôt, au revoir.